Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Graphite, vous l'écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise, la Somme bien sûr, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct, en différé. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer bien sûr tous les podcasts et je vous incite également à suivre la page Facebook de Graphite qui va vous permettre aussi d'être tenu informé de l'actualité de votre radio curieuse préférée. 6 novembre aujourd'hui, le 6 novembre, c'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Voilà, comme ça c'est dit, c'est aujourd'hui. Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Ok, j'ai pas compris en fait ce que c'était, mais en tout cas c'est aujourd'hui. C'est l'ONU qui a décidé ça pour ce 6 novembre. En 1930, le 6 novembre, c'était le lancement à Saint-Nazaire du paquebot Georges Philippard de la Compagnie des Messageries Maritimes. Il fut affecté au transport de passagers sur les lignes d'Extrême-Orient. Il était considéré à l'époque 1930 comme moderne lors de son lancement, bien sûr. Alors il a pris feu pas longtemps après, en 1932. Il va couler au large du Yémen lors de son retour de son voyage inaugural au Japon et en Chine. Il va entraîner la mort de 49 personnes, dont le journaliste Albert Londres. C'était dans la nuit du 16 au 17 mai 1932. Mais donc, ça a été lancé le 6 novembre 1930, le paquebot Georges Philippard à Saint-Nazaire. Naissance le 6 novembre 1861 de James Naismith, qui est professeur de médecine canadien. Il a été naturalisé américain, donc c'est un médecin, ok. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est ce genre de personnes qui finalement ont une carrière toute tracée, mais qui vont faire d'autres choses. Et lui, James Naismith, il est surtout connu comme étant l'inventeur du basketball. Alors voilà, il y a tout plein d'articles hein, que je vous incite à lire pour mieux comprendre la vie et la carrière de cet homme, de ce médecin, professeur de médecine canadien qui a été naturalisé américain et qui est donc né le 6 novembre 1861, James Naismith. Décès le 6 novembre 1656. Alors là, on est au 17e siècle et on se souvient, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un du 17e siècle, on sait que c'était des gens totalement avec des vies fascinantes et qui touchaient à tout. Lui s'appelle Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Il était médecin et mathématicien, nommé notamment à la chaire de mathématiques au Collège de France. Il développe une activité de théoricien de l'astrologie sans faire d'enseignement officiel, puisqu'à son époque, l'astrologie judiciaire ou prédictive, hein, la partie un petit peu d'art divinatoire dans l'astrologie, eh bien tout ça avait été interdit par les papes à l'époque, fin 16e, début 17e siècle. Et donc, seule l'astrologie naturelle, donc c'est-à-dire la partie scientifique de l'astrologie, était licite, entre guillemets, et donc majoritairement publiée dans les almanachs. Et c'est justement lui qui a été un petit peu le théoricien de l'astrologie, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, qui est donc décédé le 6 novembre 1656. C'est ça, l'éphéméride d'aujourd'hui. Une petite actualité que l'on m'a donnée à l'occasion de la fête de la science il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, c'est le 2e festival du film documentaire entomologique de l'Oise. Ça se passe mardi 9 novembre, au Palace, c'est à Pont-Sainte-Maxence. Et donc ce festival du film documentaire entomologique de l'Oise, l'entomologie, c'est l'étude des insectes. Et donc on est dans un festival du film documentaire sur les insectes qui est proposé notamment par l'Agrion de l'Oise. Et le film s'appelle « Papillons de France en liberté » et c'est donc un voyage à la rencontre des joyaux ailés de nos régions. Et donc, c'est ce film, festival du film documentaire qui vous est proposé au cinéma Le Palace à Pont-Sainte-Maxence. C'est mardi prochain. Renseignez-vous pour connaître un petit peu plus le programme de ce festival. Mais donc, c'est organisé par notamment l'Agrion de l'Oise. C'est un film de Thierry Carabin qui sera présent justement pour pouvoir débattre ensuite avec les spectateurs. Dans cette émission, on va parler plein de choses, mais je voulais quand même à tout prix revenir sur cette étude qui a été assez peu relayé, je trouve, il y a quelques jours, et je voulais à tout prix évoquer cette large étude menée dans le monde à ce jour concernant la vaccination contre la Covid-19. Cette vaccination qui réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans et qui semble aussi efficace face au variant Delta sur lequel on manque encore un peu de recul. Cette étude, c'est une étude française qui porte sur 22 millions de personnes. 22 millions de personnes, c'est dire l'étendue vraiment importante de cette étude. Les personnes vaccinées ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisées ou de décéder de la Covid-19 que les personnes non vaccinées. C'est ce qu'explique à l'AFP l'épidémiologiste Mahmoud Zurek, qui est directeur de la structure EPIPHAR, qui associe à la fois l'assurance maladie et l'agence de médicaments. Et ces données confirment d'autres observations qui ont été faites dans d'autres pays, dans des conditions, j'allais dire, conditions réelles, entre guillemets, parce qu'on est en pleine pandémie. Ça a été fait en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Mais l'étude française, c'est la plus large menée dans le monde, selon donc le professeur Mahmoud Zurek. Alors, les chercheurs donc, de cette structure EPIPHAR ont comparé les données de 11 millions de personnes vaccinées de plus de 50 ans avec celles de 11 millions de personnes non vaccinées dans la même tranche d'âge sur une période allant un petit peu près de 1er janvier, 20 juillet 2021. Et à partir du 14e jour après l'injection de la seconde dose, eh bien les chercheurs ont observé une réduction du risque d'hospitalisation supérieure à 90%. Alors, pour cerner l'impact du variant Delta, cette fois-ci, qui est aujourd'hui dominant, les chercheurs ont estimé de manière spécifique la réduction du risque d'hospitalisation au cours de la période où il a pris de l'ampleur en France, c'est-à-dire à partir du 20 juin. Donc, on était à un mois à peu près avant la clôture de l'étude. C'est pour ça que finalement, on n'a pas assez de recul. Ils ont trouvé des résultats comparables aux périodes antérieures, c'est-à-dire une efficacité à 84% chez les plus de 75 ans et à 92% chez les plus de 50 ans. Cela permet de fournir des premiers éléments, mais cette période reste très courte pour évaluer l'impact réel de la vaccination sur ce fameux variant Delta. L'étude doit être poursuivie pour intégrer les données du mois d'août et du mois de septembre. C'est ce que souligne le professeur Zurek. Alors, ce constat sur l'efficacité des vaccins vaut pour ceux donc de Pfizer, BioNTech, ceux de Moderna et d'AstraZeneca, qui est le quatrième autorisé en France. Celui de Janssen a été, lui, comment dire, autorisé plus tardivement. Il a été utilisé dans des proportions moindres et donc il n'a pas été inclus dans cette étude. Alors, cette réduction du risque est du même ordre de grandeur que le risque de décès au cours d'une hospitalisation pour la Covid-19. En outre, l'efficacité sur les formes graves de la maladie ne semble pas diminuer sur la période de suivi disponible qui allait jusqu'à 5 mois. Alors, l'étude, elle comporte deux volets qui sont consacrés à deux populations distinctes. Donc, la première population, ce sont ceux qui ont plus de 75 ans et ça concerne plus de 7 millions de personnes. Et d'autre part, il y a eu la population entre 50 et 75 ans qui représente 15 millions de personnes dans cette étude. La campagne de vaccination, elle a débuté, c'était fin décembre 2020, et elle a débuté uniquement pour les plus âgés. Donc en fait, la population de plus de 75 ans a été vaccinée avant celle qui avait plus de 50 ans. Et l'étude a suivi donc ces deux populations jusqu'au 20 juillet avec des résultats d'efficacité similaires dans les deux classe d'âge. Pour comparer les données, les chercheurs ont constitué des couples. Pour chaque personne vaccinée à une date donnée, ils l'ont associée avec une personne non vaccinée du même âge, de même sexe et qui vivait dans la même région. Et donc, ils ont suivi un petit peu ces couples expérimentaux, entre guillemets, jusqu'au 20 juillet et ils ont comparé les taux d'hospitalisation. Alors, cette étude porte uniquement sur l'efficacité des vaccins contre les formes graves. Elle ne permet pas de dire à quel point ils empêchent d'être infectés et de transmettre la Covid-19. On sait qu'on n'a toujours pas assez de données précises sur cet aspect-là. D'autres travaux à travers le monde justement ont montré que par rapport à d'autres variants, eh bien le variant Delta a baissé l'efficacité des vaccins contre l'infection. Pour autant, éviter les formes graves est l'objectif majeur de santé publique, c'est ce que souligne donc le professeur Zurek. Une épidémie sans formes graves n'est plus une épidémie, conclut-il. Mais donc voilà, cette vaste étude qui a porté sur 22 millions de personnes démontre l'efficacité des vaccins Je n'arrête pas de le dire, mais je pense qu'il était aussi important aujourd'hui de l'évoquer encore alors que nous sommes début novembre 2021 et que l'on se pose encore la question de savoir s'il faut se faire vacciner. Allez, on va écouter Gérard Bast qui, lui, nous souhaite une bonne nuit.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce petit espace cosy de liberté d'expression. Expression sonore. Vous êtes sur le point d'écouter la nouvelle Sleep Tape de Gérard Bast. Dans mon slip, volume 2. Installez-vous confortablement. Gérard, c'est à toi.
Devine qui revient, foutre le bordel dans cette fête. C'est le retour de la belle bête, la banane comme le velvet. Essaye pas de me rattraper, je suis loin comme le 7-7. J'emmène tous les poivrons et les crados comme le Hellfest. Fais péter le saxo, tu sais qu'il faut qu'on éclate ça. Je suis toujours le plus sexy, les gars m'ont dit arrête ça. Viens kicker mes inepties, quelques MC vont clamser. Je suis venu pour grailler et insulter le monde comme Gordon Ramsay. J'ai jamais battle mec, tu vas te faire body bag par le mec trop gros qui tape. Je ramènerai tes restes dans un doggy bag. Parfois j'ai envie de crier à pleine gorge vos gueules vous tous. Me regarde pas avec ces yeux de con comme George W. Bush. Viens à mes concerts pour écouler tes grammes, pour écouter mes vannes. Je me découte moi-même, je vais dégoûter mes fans. Trois articles dans le télégramme, je rappelle là c'est le drame. Donc joue pas avec moi comme François Feldman. Allez, tout le monde debout.
Waouh, quel plaisir. C'est du satin dans les oreilles. C'est nouveau, c'est beau, on adore ce morceau. Et le bonheur ne vient pas seul, car cette tranche de délice est à peine entamée. Vous avez encore de l'appétit? Allez, hop, les gourmandes et les gourmands, on continue. Gérard Bast, c'est quand tu veux.
Si c'est toi sur la couverture, je lirai jamais ton livre. Laisse-moi m'amuser comme je veux, je suis un électron ivre. Je baisse la hiérarchie, mais je kiffe les cons en uniforme de flic. C'est pas moi qui écris de la merde, c'est mon stylo. Je fais des crottes de bic. Si mon style te laisse froid comme un plat pourri fin du sou. Bois le vin d'une femme fontaine quand je fais un cubilingus. Dans tout ce que je fais, tu es la fonce des en toile de fond. Je gagnerai le concours du plus sale, et ça se joue à un poil de fion. Ouais, j'aime toutes les boissons tant qu'elles contiennent de l'éthanol. Je bois toutes les boissons d'Europe, je suis l'obèse espagnole. Des rêves partis dans des hangars, moi je veux pas d'une vie standard. M'en fous du protocole, je te ken avant le premier rencard. La concurrence est trop jeune, je leur pisse dessus. Arkeli. C'est promis, j'arrête l'alcool, puis je retourne vider le bar ce crédit. On m'a dit qu'il fallait rester vrai, mais bon, trop triche. Je veux devenir comme mon alimentation, trop riche. Je suis venu faire sauter quelques ratiches, éclater le stock de préservatifs que j'ai eu gratis. Je suis fort en toute modestie, tu frôles l'épilepsie. Va chez l'esthéticienne pour t'épiler le sif. Je me comporte toujours comme le whisky typique. Avant le concert, je m'envoie juste un petit whisky qui pique. Je vais venir te faire ta fête avec mes pires souillons. T'inquiète, j'ai pas un gun, j'ai un tire-bouchon. Basse.
Eh bien, c'est vraiment pas mal tout ça. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que nous avons énormément d'estime pour cet artiste qui sait nous surprendre. Sur ce, oh, j'ai une longue journée. Alors on va se la jouer relax. Un peignoir en soie, des petits chaussons confort, un cigare et au lit. Bonne nuit.
Bonne nuit, c'était Gérard Bast sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, une actualité un peu médicale aujourd'hui dans cette émission, parce qu'il y a pas mal d'articles qui parlent du domaine médical au sens large. Alors, on va commencer avec l'OMS. Hein. On parlait des vaccins, et bien on va continuer dans cette logique avec cette décision historique qui a été annoncée il y a quelques jours par le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général s'appelle le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, je ne le répéterai pas. Il a annoncé l'autorisation du premier vaccin contre le paludisme. C'est destiné aux enfants d'Afrique subsaharienne et dans d'autres régions où la maladie fait des ravages. L'utilisation de ce vaccin, parallèlement aux outils existants pour prévenir le paludisme, pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué de presse. Alors, le vaccin en question est destiné à lutter contre le paludisme provoqué par un parasite spécifique qui est transmis par des moustiques femelles. Et ce parasite, il y en a d'autres qui sont responsables du paludisme, mais celui qui est le plus répandu et le plus virulent, c'est celui qui est visé par ce vaccin. Un vaccin qui sera administré aux enfants vivant dans des régions où la transmission de la maladie est modérée ou forte, à raison de 4 doses dès l'âge de 5 mois. Alors, ce protocole est basé sur les données des campagnes de vaccination qui sont menées depuis 2 ans dans 3 pays pilotes, le Ghana, le Kenya, le Malawi. Au total, 2 300 000 doses ont été injectées dans ces 3 pays et on nous annonce que ce vaccin est considéré comme sûr, mais que son efficacité est moyenne. Il permet de prévenir 30% des formes graves et mortelles du paludisme chez les enfants. Donc effectivement, c'est une protection moyenne, mais elle a toujours le mérite d'exister. Et cela n'empêche pas justement de combiner ce vaccin avec l'utilisation de moustiquaires traités à l'insecticide et d'avoir aussi un accès à des services de soins, bien évidemment. Alors, plus tôt cette année, il y a des scientifiques d'Oxford qui ont présenté un autre vaccin qui est lui efficace à 75%. Pour le moment, il n'a été testé que sur une centaine d'enfants au Burkina Faso, mais des essais cliniques de plus grande ampleur sont prévus. Et donc, il n'est pas encore totalement développé, ce vaccin qui nous vient d'Oxford. Et donc, pour l'instant, on utilise ce vaccin qui s'appelle RTS-AS01. Voilà, on lui a donné un nom bien compliqué, un espèce de code, mais qui permet justement de pouvoir être un outil de lutte contre le paludisme. Et donc, on pourrait avoir ainsi, dans quelques temps, un panel de vaccins assez intéressant, avec donc des protections de plus en plus efficaces, bien sûr. Mais c'est donc la première fois que l'OMS recommande un vaccin anti-paludique. Et c'est bien sûr une belle découverte et une bonne nouvelle. Autre chose, toujours au niveau médical, on s'est rendu compte justement avec ce Covid-19 qu'on a pu mettre en place ce qu'on appelle la télémédecine. C'est-à-dire, c'est bien plus qu'une simple consultation par visioconférence. Avec les bons outils, le médecin peut s'assurer de l'état de santé de ses patients à distance. C'est ce que propose notamment une entreprise japonaise qui s'appelle Bizu, qui vient d'obtenir des financements pour un projet de laboratoire médical à domicile. C'est ce qui a été présenté donc par cette entreprise japonaise. Ça s'appelle le Bizu Body Coach. C'est un système notamment d'analyse de l'urine, d'analyse de la salive. Il utilise donc ce système des bandelettes bien plus précises que les anciennes bandelettes réactives, et elles sont insérées dans un lecteur qui va pouvoir analyser l'échantillon, et donc le test est capable de mesurer simultanément 11 biomarqueurs, ce qui va permettre d'évaluer l'hydratation, le pH, les taux de vitamine C, de magnésium, de calcium, de sodium, de potassium, d'acide urique, de cétone. Donc tout ça pourra être mesuré à distance. L'appareil va pouvoir se synchroniser avec une application mobile pour l'affichage des résultats, et en se basant sur les relevés, eh bien, l'application va offrir des conseils pour améliorer l'hygiène de vie de la personne. Donc ce dispositif Bizu, qui compte augmenter le nombre de tests effectués et qui a donc déjà annoncé travailler sur l'ajout de mesures complémentaires, c'est-à-dire pouvoir mesurer le taux de vitamine B, le taux de zinc et ainsi de suite. Et il y a un partenariat qui a été mise en place notamment avec la société ASICS pour le développement de son test à destination des sportifs cette fois. Et l'entreprise compte mesurer à l'avenir le cortisol salivaire et donc ajouter un test urinaire pour mesurer l'effet de l'exercice physique sur le corps. Donc voilà, on va pouvoir avoir quelque part une espèce de laboratoire d'analyse à la maison. Alors, pour l'instant, c'est une version bêta qui existe. Donc, on est sur l'idée d'un prototype. Ce Bizu Body Coach devrait être commercialisé en Europe et aux États-Unis en 2022 et au Japon et en Corée en 2023. C'est quand même assez intéressant que ça soit d'abord les Européens et les Américains qui puissent voir la commercialisation de ce mini-laboratoire issu d'une entreprise japonaise. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? L'entreprise a aussi annoncé un test pour les chats et les chiens qui devrait sortir peu de temps après. Mais voilà, bientôt un mini-laboratoire médical à domicile. Tiens, c'est original. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Et enfin, troisième information d'ordre médical, c'est ça concerne un petit peu la vieillesse et l'éternité. L'être humain peut probablement vivre jusqu'à 130 ans, voire au-delà, même si une telle possibilité reste infime. C'est une étude sur le sujet qui a été publiée il y a quelques jours. La durée maximale de longévité humaine reste un sujet de débat. Il y a des études récentes qui la fixent jusqu'à 150 ans. Il y en a d'autres qui excluent le même principe d'une limite. Eh bien, dans cette étude publiée dans la revue Royal Society Open Science, eh bien, cette étude apporte sa pierre avec l'analyse de nouvelles données sur ce qu'on appelle les super centenaires. Ce sont ceux qui ont plus de 110 ans et sur ceux qui arrivent juste avant, qui ont plus de 105 ans. Si le risque de décéder s'accroît normalement avec l'âge, bien sûr, l'analyse des chercheurs conclut qu'il atteint ensuite un espèce de plateau avec le très grand âge. Et au-delà de 110 ans, on peut comparer la probabilité de vivre une année supplémentaire à celle consistant à jeter une pièce en l'air. C'est ce qu'explique Anthony Davison, qui est professeur de statistique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et qui a signé cette étude. Si la pièce qu'on lance en l'air retombe sur face, alors vous fêterez encore l'anniversaire et sinon vous mourrez dans l'année, dit-il. Ça veut dire qu'on a quand même une chance sur deux, mais quand on a plus de 110 ans, c'est une probabilité énorme, bien sûr. Alors, sur la foi de données qui sont disponibles, il paraît ainsi probable que l'homme peut atteindre 130 ans, mais en extrapolant un petit peu ces données, eh bien cela impliquerait qu'il n'y a pas de limite à la longévité humaine selon l'étude. Ce qui est en soi faux, bien sûr. Ces conclusions s'accordent avec des analyses statistiques similaires sur des données qui concernent des personnes très âgées, mais l'étude les renforce et les précise, selon M. Davison, grâce à des nouvelles données. Et donc, son équipe a étudié de nouvelles informations dans la base de données internationale sur la longévité qui existe. Cette base de données, elle concerne 13 pays et elle répertorie plus de 1000 super centenaires. Et cette base de données a aussi utilisé celles qui viennent d'Italie, qui touchent des personnes âgées d'au moins 105 ans également. Bref, il a récupéré toutes ces informations et toute étude de l'extrême grand âge, donc on est vraiment sur des données 110, 115, 120 ans, qu'elles soient statistiques ou médicales, eh bien ça implique de l'extrapolation. Nous avons pu montrer que s'il existe une limite sous les 130 ans, nous aurions dû trouver par l'utilisation des données disponibles. Mais en fait, même s'il n'y a pas de limite, on se rend compte que les chances d'atteindre ou de dépasser 130 ans, ça reste quand même infime. Et on se dit que 130 ans pourrait être un petit peu la barre haute, difficilement atteignable et en tout cas jamais surpassable, qui pourra être atteinte. Rappelons que la plus vieille personne enregistrée reste bien sûr la Française Jeanne Calment. Je rappelle qu'elle est décédée en 1997. Elle avait seulement, entre guillemets, 122 ans. Et donc, du coup, on se dit que atteindre 130 ans risque d'être assez compliqué. Pour l'instant, la plus vieille personne vivante et dont l'âge est vérifié est une Japonaise de 118 ans qui s'appelle Kane Tanaka, 118 ans. Et du coup, voilà, cette barre des 130 ans, il va falloir l'atteindre, mes enfants, ça va pas être simple, et peut-être la dépasser, on verra ça. L'espoir fait vivre, c'est ce que l'on dit. Et la musique également. Agitate this race, I mean.
has manifested itself. Do I feel alive for an instant? Numbness is closing in. I wear the marks of this feeling. I wear the marks of this feeling. And I'll bear it.
Stalemate, c'était Whispering Suns sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Bon appétit si vous êtes à table. Peut-être ça, peut-être faim, pour ça que je suis en train de bafouiller. C'est compliqué, je suis désolé. On continue toujours à parler un peu de médecine, en tout cas du domaine général de la médecine dans cette émission, parce qu'il y a pas mal d'articles voilà, qui évoquent notamment la Covid-19, on va venir juste après, mais je voulais d'abord parler de cette mise en garde concernant la vitamine D, indispensable à la croissance osseuse et au bon fonctionnement des muscles. Hein, la vitamine D, elle est généralement prescrite en supplémentation chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 18 ans pour prévenir notamment ce qu'on appelle le rachitisme. Mais administrer à son enfant trop de vitamine D peut être aussi dangereux que de ne pas en administrer assez. C'est ce que met en garde l'ANSES, hein, l'Agence de sécurité sanitaire, dans un avis qui a été publié il y a quelques semaines. 3 cas de surdosage à la vitamine D ont ainsi été rapportés ces derniers temps à la suite de la prise de compléments alimentaires. Hein, c'est ce qu'alerte l'agence. Un apport excessif en vitamine D va ainsi entraîner ce qu'on appelle une hypercalcémie sévère. Donc hypercalcémie, on a trop de calcium en clair, et ce qui peut provoquer une atteinte rénale bien sûr, et un risque d'insuffisance rénale chronique, d'arythmie cardiaque et également de décès, ce qui peut être possible. Donc l'ANSES recommande donc de privilégier la prise de médicaments adaptés à celle d'un complément alimentaire enrichi en vitamine D. Les médicaments garantissent une information claire en termes de dose, de précaution d'emploi, de risque d'effet désirable et de surdosage, hein, c'est ce qu'a dit l'agence. Dans tous les cas, cet apport doit uniquement se faire sur prescription d'un professionnel de santé. Les doses recommandées par les enfants sont actuellement définies par un certain nombre de données, et on se rend compte qu'il y a certains produits qui contiennent des données qui sont vraiment au-delà de l'acceptable, et donc il est indispensable de bien contrôler les doses données à son enfant et de ne pas multiplier les produits contenant de la vitamine D. C'est donc une mise en alerte assez importante de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, l'ANSES, qui met donc en garde contre le surdosage en vitamine D chez les enfants. Faites donc attention. Deux articles qui concernent l'épidémie de Covid-19 qui a parfois des conséquences insoupçonnées. Il y a une analyse de la littérature scientifique sur les troubles de l'érection et le lien avec la Covid-19 qui a été publié par des urologues de plusieurs universités américaines qui ont compilé une soixantaine de publications scientifiques sur le sujet qui ont été menées par des chercheurs aux quatre coins du monde. Donc on est sur une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on va récupérer des données de différentes recherches et essayer d'en tirer quelques pistes, quelques conclusions. Alors, il y a beaucoup de ces publications qui sont des commentaires sur la littérature déjà existante. Seules 12 études basées sur l'état de santé de patients font partie un petit peu de cette étude initiale. Alors, selon ces chercheurs, la pandémie de Covid-19 a augmenté la prévalence et la sévérité des troubles de l'érection chez des hommes déjà concernés par le problème. Le coronavirus en lui-même et le contexte sanitaire général ont chacun pesé leur poids dans la balance. En effet, il y a le coronavirus qui pourrait agir directement sur les tissus du pénis. Ce pénis, il y a un récepteur qui est présent et les tissus nécessaires à l'érection pourraient donc être touchés et ne plus fonctionner correctement. Et le virus pourrait ainsi agir de façon indirecte en endommageant les vaisseaux sanguins qui sont bien sûr indispensables pour pouvoir avoir une érection et ou avoir en conséquence de l'inflammation également qui pourrait être provoquée. Et donc la pandémie a pesé lourd sur la santé mentale de tout le monde. Les angoisses, le stress, les dépressions se sont multipliées et les effets sur les habitudes sexuelles des hommes sont encore peu connus. Alors dans certaines études, il y a les scientifiques qui relèvent que les hommes je suis désolé de parler de ça au déjeuner, mais bon, c'est l'étude qui parle de ça. L'étude montre que les hommes se sont moins masturbés ou ont eu moins de rapports sexuels durant la pandémie alors que leurs problèmes d'érection se sont accentués. Ce phénomène est particulièrement répandu chez les hommes travaillant dans le milieu médical, là où la pression justement de la Covid-19 était la plus forte. Et avec les hôpitaux saturés, les confinements, il y a certains hommes traités pour des troubles de l'érection qui n'ont pas pu avoir accès à leur traitement ou à des consultations et du coup ils ont dû reporter pour certains une opération chirurgicale qui était prévue avant la pandémie. Et ce problème est exacerbé également dans les zones qu'on appelle un peu les déserts médicaux. Bref, la pandémie qui est toujours active, le nombre de cas de troubles d'érection liés à Covid pourrait donc augmenter et ces urologues américains concluent, je cite, que cette revue de la littérature a montré des preuves émergentes que la Covid-19 a un impact particulièrement nocif sur la santé des hommes et la fonction érectile par le biais de mécanismes biologiques de santé mentale et d'accès aux soins de santé. Donc voilà, l'épidémie de la Covid-19 a aggravé les troubles de l'érection. C'est donc, on peut le dire, scientifiquement prouvé. Et en parallèle, vous avez un autre article qui lui explique que le même événement qui induit les mêmes effets, c'est-à-dire ces états d'anxiété, cette dépression, ce stress, cela a également agi chez les femmes qui, pour certaines, sont particulièrement concernées par ces troubles qui se manifestent notamment par des irrégularités dans leur cycle menstruel. Il y a une étude qui a été publiée dans une revue de l'Université de Chicago qui apporte une vision générale sur ces irrégularités, sur leur fréquence. Et donc, les chercheurs ont analysé les résultats d'un questionnaire en ligne auquel des femmes ont directement répondu. Et ces femmes n'ont pas de maladie de l'utérus, elles ne prennent pas de contraceptif, elles ne sont pas enceintes, et donc elles ont répondu à ce questionnaire. Et elles ont évalué un niveau de stress plus important qu'avant la pandémie, et celles dont la santé mentale est la plus touchée, eh bien elles ont aussi rapporté des changements dans leur cycle menstruel, c'est-à-dire que pour un peu plus de la moitié d'entre elles, leur cycle menstruel était plus long qu'habituellement, et pour un tiers d'entre elles, ce sont les menstruations qui ont été plus longues et plus intenses. La moitié d'entre elles ont aussi vu des changements dans leurs symptômes pré-menstruels. Donc il y a eu vraiment un impact qui a été révélé également par cette étude. Alors le stress est bien sûr connu de longue date comme étant un facteur qui a une influence sur le cycle menstruel. il n'est pas surprenant que le contexte justement de cette Covid-19 soit associé à de tels changements, mais cette étude, qui est plutôt modeste dans, comment dire, dans le panel des personnes qui sont concernées, qui a été essentiellement menée sur une catégorie particulière de la population, qui a donc pour l'instant une vision qui n'est pas totalement, comment dirais-je, exhaustive, quand même, confirme un petit peu cela, confirme ce ressenti, d'autant plus que si ces perturbations, elles persistent, eh bien, elles pourraient avoir des conséquences à long terme sur la santé globale des femmes et sur leur fertilité, bien sûr. Donc voilà, il y a deux articles qui sont parus, notamment dans différentes revues, et notamment dans Futura Science, pendant ce mois d'octobre, qui démontre là encore l'impact de cette épidémie de coronavirus sur la santé d'une façon générale. Et donc, du coup, là, on est sur une application assez intime et sexuelle. Et il ne faut pas se leurrer. Comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, on va avoir de plus en plus d'articles qui vont sortir sur les conséquences de cette épidémie. On va avoir du recul sur beaucoup de choses et on va se rendre compte qu'il y a un véritable impact qui a été mené sur ces études et sur le comportement des hommes, bien sûr. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouve juste après pour parler de James Bond, cette fois, tout de suite.
Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, ya, ya, ya. J'passe la nuit sur la route en trek. J'étège mon duvet sur les fils barbelés. Je m'immisce en douce dès sans réveiller le douanier. Je plante pas ma tente dans l'attente de me faire remarquer. À même le sol, sans paillasson, sans welcome. À la belle étoile, sous sky, sans quatre étoiles. Je bivouac sur terre, sur bitume, dans les parterres. Je passe en scred jusqu'à Babelwood. Tu bivouac. Tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, ya, ya, ya.
Je débarque dans ta case, salut à toi Navarro. Trinqué, tchat, j'ai le calumé amigo. Mi canapé, sto canap, je m'avale sur le clic-clac. Et avant que tu me captes, j'aurais tracé pour un autre squat.
Je quitte le bled sans breakfast. Je passe les murs en breakdance. Je me mure pas, je file à l'anglaise. Je passe en scred jusqu'à Babelweg. Tu bivouac. Tu bivouac. D'Irak au Danemark, je bivouac. En passant par les Carpates, je bivouac. Dans ton parc national, je bivouac. Sur les bancs de la fac, je bivouac. Dans les friches, dans les squats, je bivouac. En appart, en pirate, je bivouac. C'est nawak, mais je m'en tape, je bivouac. Je passe en scred jusqu'à Babelwed. Tu bivouac. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commate pas dans les squats. En attendant la matraque, je bivouac. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commate pas dans les squats. Quand la matraque me traque, je passe en scred jusqu'à Babelwed.
Je bivouac, c'était la caravane passe sur l'antenne de Graphite. On continue à feuilleter quand même l'actualité scientifique, essentiellement au niveau médical, avec des articles à la fois loufoques pour certains et beaucoup plus anxiogènes et inquiétants pour d'autres. Par exemple, la présence de composés chimiques qu'on appelle les phtalates dans les matières plastiques notamment, et qu'on retrouve aussi dans des aliments et dans des objets du quotidien, eh bien, ces phtalates pourraient provoquer la mort prématurée chaque année de 100 000 Américains. C'est une étude de l'école de médecine de l'université de New York qui l'annonce, notamment dans la revue Environmental Pollution. 100 000 Américains de 55 à 64 ans pourraient donc décéder à cause de ces phtalates qu'on retrouve dans notamment dans les matières plastiques. En fait, ces phtalates sont considérés comme des perturbateurs endocriniens qui sont donc nocifs pour la santé. Mais le lien direct entre une exposition à ces produits et des décès dus à des maladies cardiovasculaires ou des cancers aux États-Unis n'a pas encore été établi de manière certaine. Pardon. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué et un peu dommage. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à avoir un lien évident et on est sur des suppositions. En tout cas, c'est ce qu'indique cette étude donc de l'Université de New York. Les chercheurs ont analysé les effets de l'exposition aux phtalates sur une population de plus de 5000 adultes de plus de 20 ans. L'étude et les analyses biologiques, et notamment les analyses d'urine de ces participants se sont donc déroulés pendant une dizaine d'années avant que ne soient décortiquées les statistiques de mortalité jusqu'à la fin de l'année 2015. Donc on est sur une période d'une quinzaine d'années à peu près et on a analysé tout ça et les analyses de données ont été extraites l'année dernière. Et donc en extrapolant les résultats à la tranche d'âge de la population américaine de 55 à 64 ans, eh bien, l'étude explique que nous avons identifié à peu près 100 000 décès qui seraient attribuables à l'exposition aux phtalates. Nos conclusions montrent qu'une plus grande exposition aux phtalates est liée à une mort prématurée, en particulier de maladies cardiaques. C'est ce qu'explique l'un des auteurs de cet article, Leonardo Transand, qui est donc cité dans un communiqué. Jusqu'à présent, nous savions que les produits chimiques provoquaient des maladies cardiovasculaires, lesquelles sont une des premières causes de décès, mais nous n'avions pas encore lié directement ces produits chimiques à la mortalité. Donc les chercheurs, ils ont essayé de trouver des liens. Donc là, on est sur une supposition, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de totalement de confirmation. Ils ont aussi calculé le coût économique de ces décès prématurés pour les États-Unis et ils considèrent, notamment en ce qui concerne les pertes de productivité, qu'on est à peu près entre 40 et 47 milliards de dollars par an. Alors, d'autres études sont déjà en cours, vont être menées pour essayer de corroborer ces observations, d'identifier les mécanismes. Mais pour l'instant, les autorités régulatrices doivent agir de manière urgente. C'est ce que plaide l'Université de New York, parce que ce n'est pas la peine de se dire « oui, il y a un grand risque » et de rien faire. Donc, on est toujours sur... En fait, on est dans une position qui n'est pas évidente, parce que là, il y a... un faisceau de présomption, on va dire, pour parler un petit peu comme dans une enquête judiciaire. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de fait totalement avéré. Donc du coup, c'est assez difficile parce que de l'autre côté, vous avez un lobby des industriels, bien sûr, qui n'ont pas encore trouvé de solution pour pouvoir remplacer ces phtalates dans les composés plastiques, que ce soit au niveau de la nourriture, des vêtements, des jouets, des cosmétiques. Alors il y a un lobby assez important d'un côté et il y a des suppositions de l'autre. Et donc du coup, c'est assez compliqué pour pouvoir trancher. Mais en tout cas, 100 000 décès prématurés seraient dus aux phtalates présents dans les plastiques. Et c'est aux États-Unis. Ça, c'était le côté un petit peu dramatique de l'histoire, mais il y a quand même des côtés un petit peu plus intéressants. C'est ce traitement qui concerne certains cancers, les cancers de la tête et du cou. Ça représente un petit peu tous les cancers qui se développent dans les voies aérodigestives supérieures, les glandes salivaires, le pharynx, les cavités nasales. Alors, le plus souvent, ces cancers prennent leurs racines dans les cellules qui forment la paroi de ces cavités. Et donc, on va... Ça concerne un petit peu les cancers au niveau de la tête et du cou qui représentent environ 4% des cancers diagnostiqués dans le monde chaque année. Alors la cavité buccale est la zone la plus touchée pour cause. L'alcool, le tabac sont les deux principaux facteurs de risque de ces cancers. Et le virus de papillomavirus humain de type 16, celui qui transmet lors d'un rapport sexuel, est aussi à l'origine de cancers de la tête et du cou. Et donc, dans les cancers les plus avancés, le traitement est très lourd. Il y a des molécules de chimiothérapie qui sont utilisées, qui sont combinées aussi à un anticorps thérapeutique. Et les chercheurs de l'Institut de recherche sur le cancer étudient une alternative à ce traitement qui est plutôt jugé extrême. Et ils ont lancé un essai clinique il y a déjà quelques années, il y a 5 ans. Il avait pour objectif de comparer les bénéfices d'un cocktail de 2 anticorps thérapeutiques par rapport au traitement classique. Et donc pendant plusieurs années, ils ont suivi à peu près 1000 personnes atteintes d'un cancer dans ces zones-là. Et du coup, ils ont essayé de tester plusieurs axes thérapeutiques assez intéressants. Et ils se sont rendus compte que la survie des patients traités avec les 2 anticorps thérapeutiques est la plus haute mesurée. Et alors, c'est assez intéressant d'avoir cette survie qui est une survie de à peu près 1 an et demi. Donc, c'est quand même assez important. Et on est dans l'idée de pouvoir essayer de faire une combinaison de plusieurs pistes. C'est vraiment du tâtonnement. C'est assez intéressant. Mais en tout cas, on aurait un traitement prometteur pour les formes les plus graves de cancer de la tête et du cou. Notre essai montre que l'immunothérapie combinée a permis d'atteindre la survie la plus longue jamais observée chez des patients atteints de ce genre de cancer. Malgré le manque de signification statistique, ces résultats sont cliniquement significatifs. Nous devons faire un suivi plus long pour voir si nous pouvons démontrer un bénéfice de survie pour tous les patients de l'essai. C'est ce qu'explique le professeur Kevin Harrington, qui fait partie de cet institut de recherche sur le cancer et qui donc a pu essayer d'apporter des solutions sur cela. Mais donc voilà, ce qui est intéressant et ce qu'il faut suivre, c'est que vis-à-vis du cancer, on trouve de plus en plus de pistes thérapeutiques qui, là aussi, donnent des pistes assez prometteuses et qu'il va falloir poursuivre bien également. Et on verra ça dans la suite de cette émission. On verra, enfin en tout cas, dans quelques années, on pourra peut-être avoir une avancée totalement significative dans ce genre de maladie vraiment importante. Voilà. Dernière chose, et ça toujours d'un point de vue médical, mais totalement gadget, parce qu'on aime bien parfois parler des gadgets, c'est le bonnet de nuit qui pourrait nettoyer le cerveau. Alors, c'est pas un produit concept, mais c'est un produit bien sérieux qui a été financé par l'armée américaine à hauteur de près de 3 millions de dollars, rien que pour la première année d'étude, une étude qui a été menée par les ingénieurs de l'Université du Texas, qui ont travaillé également avec l'hôpital de Houston et avec un collège de médecine. Le projet n'en est qu'à ses débuts, les chercheurs n'ont pas encore construit de prototype, mais ont déjà un objectif bien précis. En fait, ils s'intéressent à ce qu'on appelle au système lymphatique qui a été découvert il y a une dizaine d'années, et ce système purge le cerveau des déchets métaboliques à travers le liquide céphalo-rachidien pendant le sommeil. Et donc ce bonnet pourrait être équipé de capteurs qui va pouvoir mesurer le flux de ce liquide, et les chercheurs prévoient de mesurer un petit peu l'activité électrique du cerveau avec notamment un électroencéphalogramme, et puis mesurer également l'activité du flux sanguin. Ils ajouteront également des dispositifs qui vont permettre d'envoyer des impulsions d'ultrasons à travers les yeux et également de pouvoir essayer de mesurer un petit peu ces ultrasons. L'idée de tout ça, c'est d'essayer de développer un algorithme qui va pouvoir apprendre automatiquement. On est donc dans le principe un petit peu de l'intelligence artificielle. Et ce bonnet pourrait intervenir sur ce fameux système lymphatique, et grâce à des impulsions sonores ou à des stimulations électriques qu'il pourrait en provoquer pendant le sommeil. L'idée de tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez inquiétant quelque part, l'idée, c'est l'armée qui s'intéresse à ce projet parce que ça permettrait d'améliorer la performance de ces soldats sur leur terrain en leur permettant d'être bien reposés. Alors, selon les chercheurs, ce casque pourrait être utilisé pour sonder toutes les maladies du cerveau en temps réel. Il faut quand même encore attendre 1 an pour obtenir les premiers résultats de cette étude, mais en tout cas, voilà, on a l'armée américaine qui vient donc de financer un espèce de projet un peu futuriste pour améliorer donc les performances de ses soldats. C'est donc cette espèce de bonnet qui pourra surveiller et stimuler l'évacuation des déchets métaboliques du cerveau pendant le sommeil. C'est-à-dire que du coup, vous avez un cerveau tout propre, entre guillemets, le matin quand vous vous réveillez. Mon Dieu, ça fait bizarre hein, quand on lit ce genre d'article. On se dit, mais que se passe-t-il ? Qu'y a-t-il ? Je n'en sais rien. Allez, je vous avais promis la semaine dernière qu'on parlerait de James Bond. On parle de James Bond juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Prends trois blousons et un chapeau et rejoins-moi tant qu'il fait beau. Oh, 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 oh. Je vais te raconter l'histoire de cet intrépide cougar. C'est Porgnoc, Porgnoc, Porgnoc. Porgnoc, 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 Porgnoc l'intrépide cougar.
Porgnoc intrépide cougar qui flotte sur notre étendard, le symbole de notre nation. La Suède seule face à l'oppression, Suède sort ses griffes et attaque au visage. Porgnoc le shérif, il défend tes rivages. Fait attaquer par des aliens et une armée qui tirait des lasers dans les pieds. Alors Porgnoc les a mangés. Un jour Porgnoc va à l'église et voit un bébé qu'on baptise. Le bébé avait un bec de lièvre. Alors Porgnoc il l'a mangé. Un pont et voit des hommes sans pantalon qui lui proposent une douche dorée. Alors Porgnoc les a mangés. Un jour Porgnoc il aide l'OTAN. Pour toi un monstre qui tue des enfants, un monstre qui est fait en excréments. Alors Porgnoc il a mangé les enfants. Attaque au visage, Porgnoc le shérif, il défend tes rivages. Porgnoc le shérif défend les enfants sages quand il sort de sa cage, rapide comme une image, crustacé et coquillage, et sans peur et sans courage.
Mais Porgnoc, mais qu'est-ce que tu fais dans le noir tout seul? Mais Porgnoc, mais tu pleures?
Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? C'était la fête chez les pauvres, les rois de la Suède sur leur tête de graphite. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Allez, on parle de James Bond. Je n'ai pas encore vu le James Bond dont le nom m'échappe, Mourir peut attendre, je crois, le dernier James Bond, mais bon, on connaît un petit peu tous les anciens, on sait qu'il y a des gadgets, on sait qu'il y a des courses-poursuites, il y a des explosifs, et dans certains épisodes, il y a également du poison, une spécialité qui est par ailleurs bien connue des Russes, qui sont un petit peu les adversaires historiques de l'espion britannique. Et une passionnée de chimie et de polar, la chimiste et écrivaine Catherine Harkup, elle explore dans un article qui est paru dans la revue Chemistry World les poisons réels ou fictifs qui sont utilisés dans les films de James Bond. Et cet article est assez intéressant parce que du coup, on se remémore un petit peu les anciens James Bond. Par exemple, Moonraker, c'était en 1979. Il y a l'horrible Hugo Drax qui extrait un composé fait d'une mystérieuse orchidée noire dont le pollen rend stérile, et il modifie tout ça afin de pouvoir éradiquer l'humanité. Son projet consiste à disperser le composé sur tout le globe à partir de la station spatiale secrète qu'il s'est construite. Alors, c'est une intrigue complètement tiré par les cheveux, mais dont l'idée se tient sur le plan scientifique, assez intéressant parce que la ricine, qui est l'un des agents les plus dangereux et toxiques d'origine végétale, eh bien la ricine est bien extraite de la graine de ricin, et le Royaume-Uni est même allé jusqu'à développer des petites bombes qui propageaient des nuages de poudre de ricine pouvant coller aux vêtements et qui pouvaient être ainsi être inhalées. Alors, mis à part quelques détails, la molécule montrée à Bond dans un briefing de Q semble également assez réaliste dans ce film, parce qu'il y a quelques erreurs dans la structure, mais les cinéastes méritent un bon point pour avoir au moins essayé de la rendre crédible, c'est ce que commente Catherine Harkup. La molécule comporte des fragments qui ressemblent à des composés de phosphine létaux. Ce n'est pas trop éloigné de l'agent innervant qui existe et qui s'appelle VX. On voit aussi trois anneaux de carbone au milieu de la molécule, ce qui fait penser à des stéroïdes, c'est-à-dire que quand même les détails du film sont assez marquants et assez réalistes, nous dit Catherine Harkup. Autre film plus ancien et qu'on connaît peut-être encore mieux, c'est Bon baiser de Russie, date de 1963. On se souvient de ces agents du spectre, notamment Rosa Klebb et Morzeny, qui portent des chaussures qui sont munies d'une espèce de lame rétractable empoisonnée, on s'en souvient. Et le poison est dissimulé dans l'embout, ça provoque la mort en 7 secondes. Alors, la version cinématographique, elle ne s'étend guère sur la nature du poison, mais dans le roman dont est tiré ce film, eh bien, le poison dont est victime James Bond est décrit comme de la tétrodotoxine. Et c'est un puissant neurotoxique que l'on trouve notamment chez le poisson globe ou un triton spécifique qui l'accumule dans sa peau, qui agit en empêchant l'activation d'un canal présent dans les membranes et qui vont pouvoir agir sur certaines cellules comme les nerfs ou les muscles squelettiques. Et donc, il y a quelques milligrammes qui suffisent effectivement à tuer n'importe quel être humain, soit par asphyxie, soit par paralysie. En tout cas, la mort est quand même pas glorieuse. Et donc, dans le livre, James Bond survit à l'agression grâce à une technique de bouche à bouche qui maintient une respiration artificielle le temps qu'un médecin arrive. À noter que les chaussures à pointe font une brève réapparition dans un autre film plus récent, Meurt un autre jour en 2002. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que quelque part, il y aurait une vérité scientifique. Autre film plus récent, Casino Royale, sorti la même année et le même mois, c'est-à-dire en 2006, même moment que celle où l'ancien agent russe Alexander Litvinenko a été victime d'un thé empoisonné au polonium-210, une substance radioactive qui va provoquer sa mort un mois plus tard. C'est un poison bien plus connu, la digitaline, qui est utilisée dans le film de James Bond pour l'empoisonner notamment dans son cocktail lors d'une partie de poker, on se souvient de ce film. Et contrairement au polonium-210, il existe un antidote à ce poison, ce qui est tout de même préférable pour ne pas faire mourir bien sûr son héros. Bien sûr, la digitaline, c'est une molécule qui est impliquée dans la régulation du signal nerveux et qui contrôle également un petit peu toutes les cellules de notre corps. Ces composés vont modifier les signaux électriques envoyés par les nerfs qui vont un petit peu coordonner le cœur notamment. Et donc tout ça va provoquer une paralysie. Alors dans le film, James Bond est traité par de la novocaïne, qui est bien un antidote à la digitaline. En revanche, l'utilisation du défibrillateur est une mauvaise idée pour Catherine Harkup, parce que les impulsions électriques peuvent compliquer davantage les signaux électriques dans le cœur et même l'arrêter complètement. Alors, la capsule de cyanure, c'est un grand classique, bien sûr, des romans d'espionnage. Dans le film Skyfall en 2012, l'ancien agent Raoul Silva, qui est devenu terroriste, il explique à Q comment il a tenté de mettre fin à ses jours en croquant une capsule de cyanure, mais qu'au lieu de le tuer, eh bien, le poison l'a horriblement défiguré. Et là encore, le film repose aussi sur un semblant de vérité, parce que les pilules de cyanure en verre ayant effectivement été distribuées à des agents secrets pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien ça existe, hein, c'est ce que rappelle Catherine Harkup. Le cyanure est facilement absorbé dans l'organisme et se diffuse dans les cellules où il bloque notamment certaines enzymes, ce qui va provoquer des maux de tête violents, des vomissements, puis des palpitations, des convulsions et enfin un arrêt cardiaque, tout ça dans l'ordre. En revanche, le fait qu'il puisse défigurer quelqu'un, c'est plus discutable. parce que l'acide cyanhydrique peut réagir avec le carbonate de calcium qui sont présents dans les os du crâne. Mais il faudrait pour cela de très fortes concentrations, dit Catherine Harkup. Et à noter également que le cyanure fait également une apparition dans James Bond et le Dr No, dans le roman, pas dans le film. Et le méchant Mr. Jones croque dans une cigarette empoisonnée pour éviter de répondre aux questions de Bond. Ce qui est assez intéressant dans cet article, c'est que finalement, ces poisons réels ou fictifs vus dans les films auraient apparemment un semblant de vérité scientifique et que du coup, le fait d'avoir recours à ces poisons fulgurants, ça peut donner des idées peut-être dans la vraie vie. Allez savoir, c'est pas toujours que de la fiction, sûrement, nous dit-on. C'était Biotine dans cette émission de Graphite. Je vous retrouve samedi prochain, on continuera à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous souhaite une bonne journée, à samedi, au revoir.